Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Tati Mampoukou.
Okapi.
Nous voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. Comment se prépare l'opération d'assistance aux déplacés de guerre du Nord Kivu et aux sinistrés de Kalehe? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Roliane Yulu. Elle est responsable de la fondation Vodacom. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler hein, pour prendre la parole en direct par SMS. Envoyez vos questions par le même numéro, donc c'est les 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui présente cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Frézard Bongonet à la réalisation de cette émission et Pierre Diassilois est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce numéro d'Okapi Service. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La RDC a enregistré près de 3,3 millions de personnes déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et de l'Ituri depuis le mois de mars 2022 selon un rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés. La situation est alarmante hein, et les besoins sont énormes. À ce sujet, la Fondation Vodacom vole au secours des déplacés à travers les programmes dénommés Alerte Rouge. Elle a procédé dernièrement à la remise des kits à 1000 bénéficiaires ainsi que des machines à coudre pour l'autonomisation des déplacés dans les camps des réfugiés. Par ailleurs, elle a construit également quelques maisons pour les déplacés des inondations de Kalehe. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Comment apporter sa contribution en faveur des déplacés et des sinistrés, de déplacés du Nord Kivu et des sinistrés de Kalehe? Nous en parlons dans cette seconde partie de l'émission Okapi Service avec Roliane Yulu. Nous rappelons qu'elle est responsable de la fondation Vodacom. Roliane, bonjour. Bon, nous allons voir dans les minutes qui suivent Roliane qui y intervient depuis le Nord Kivu. Donc on va la voir au téléphone. Si vous êtes intéressé par ces sujets concernant l'aide à apporter aux déplacés du Nord Kivu, aux sinistrés de Kalehe, n'hésitez pas à nous appeler hein, pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler hein, pour intervenir en direct par SMS. On attend également vos questions, vos commentaires et témoignages. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires hein, dans le courriel dénommé service@radiokapi.net et sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Je pense qu'on est en train de s'affairer pour avoir Oliane qui va intervenir dans le cadre de ces sujets. On est là dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. N'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct. Je rappelle les contacts, c'est les 099-706-9941. Appelez-nous et nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez également vos commentaires, hein, témoignages et questions et l'aide à apporter aux sinistrés du décalé ou déplacé du Nord Kivu dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Le temps de mettre la main sur l'invité.
Kibangu, eh, timbalanga kaliliri kimanda.
Nous sommes dans la seconde partie du magazine Okapi Service, donc on est en train de faire un effort pour mettre la main sur l'invité qui devrait en principe quitter la réunion pour prendre part à cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Comment se prépare l'opération d'assistance aux déplacés des guerres du Nord Kivu et aux sinistrés de Kalehe au Sud Kivu? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099 706 9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos commentaires par ces mêmes numéros. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous entendons également vos commentaires, témoignages dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Il faut rappeler que la RDC a enregistré près de 3,3 millions de personnes déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri depuis le mois de mars 2022 selon un rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés. La situation est alarmante et les besoins sont énormes sur terrain dans des camps de réfugiés. À ce sujet, la Fondation Vodacom vole au secours des déplacés à travers les programmes dénommés Alerte Rouge. Elle a procédé dernièrement à la remise des kits à 1000 bénéficiaires ainsi que des machines à coudre pour l'autonomisation des déplacés. Par ailleurs, elle a construit également quelques maisons pour les déplacés des inondations de Kalehe. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Je pense que on me signale que Madame Roliane est en ligne. Bonjour Madame Roliane et bienvenue dans Okapi Service.
Merci beaucoup, bonjour Tati.
Voilà, on est en train de parler de l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre du Nord Kivu et aux sinistrés de Kalehe. Nous rappelons que vous êtes responsable de la fondation Vodacom. Qu'est-ce qui a incité la fondation Vodacom à voler au secours des sinistrés de Kalehe au Sud Kivu ainsi que aux déplacés internes et aux réfugiés dans le Nord Kivu?
Merci Tati pour la question, mais déjà, quand vous êtes une entreprise et que vous évoluez dans le domaine humanitaire, vous ne pouvez pas ne pas soutenir nos frères et sœurs qui sont dans la partie est du pays. Vous l'avez si bien dit, autour de 3 millions de déplacés de guerre. Et donc, la Fondation Vodacom, qui est une compagnie qui accompagne le peuple congolais dans son développement socio-économique, ne pouvait que, bien sûr, lancer une campagne pour pouvoir apporter assistance à ces personnes. Et donc, nous avions lancé la campagne Alerte Rouge. Alerte Rouge qui veut juste dire qu'il y a vraiment des besoins là-bas énormes et que tout le monde devrait aller mettre la main à la pâte pour arriver à soulager les conditions de nos frères et de nos sœurs. Et voilà, nous avons déjà, je dirais, depuis l'année dernière, nous avons commencé à utiliser notre technologie pour arriver à apporter déjà des solutions. Par exemple, quand nous avions appris qu'il y avait des familles en voulant se déplacer de là où ils étaient pour fuir l'insécurité, plusieurs familles s'étaient séparées. Nous avions lancé la campagne pour en fait arriver à donner à ces familles séparées quelques minutes d'appel à nos abonnés, bien sûr, des minutes d'appel gratuites pour leur permettre de rester en contact avec leurs membres de famille. Mais aussi, nous avions équipé la Croix-Rouge d'un numéro gratuit pour permettre à ce que ceux qui fouillent et qui ne savent même pas où se trouvent les leurs, qu'ils arrivent à appeler la Croix-Rouge pour identifier leurs membres de famille et pouvoir se reconnecter. C'était donc la première phase de cette campagne. Nous avons fait cela à Calais aussi, aux villages qui sont pour Calais.
Oui, la liaison s'est dégradée
un tout petit peu. La première phase.
Voilà. Dites-nous, Roliane, quels sont les biens qui ont été collectés au cours de cette opération, de cette phase, au fait, des collectes des vivres pour les déplacés, les sinistrés de Calais?
Alors, il faudrait savoir que la Fondation Vodacom ne collecte pas de vivres. Nous, ce qu'on collecte, c'est l'argent, parce que nous n'avons pas nécessairement les capacités pour arriver à fournir la nourriture. Ça, c'est pour d'autres humanitaires. Nous, on collecte l'argent, on identifie le besoin sur place, et puis nous allons donc implémenter ces actions. Par exemple, pour Calais, nous avons identifié qu'il y avait des familles qui n'avaient pas d'abri. Ils ont perdu des maisons, perdu des écoles, perdu des bâtiments qu'il y avait là. Et donc, nous sommes dit que là-bas, le besoin, c'était qu'on arrive à construire des abris décents pour les familles. Et donc, c'est ça que nous avions remis officiellement le samedi, donc il y a 2 jours. Nous étions là-bas à Calais, nous avons remis officiellement ces abris aux familles. Ça nous a beaucoup touchés, c'était des moments vraiment des fortes émotions, surtout de voir que les familles, des familles nombreuses, familles de 9, familles de 15, habiter dans une sorte de bicoque, vous allez juste être touché, mais avec les abris décents que nous leur avons construits, et voilà, nous sommes heureux de savoir que ça pourrait les aider.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de ménages qui ont bénéficié des abris à Calais, au sud de Kivu?
Alors, avec la Croix-Rouge, on a un projet de, parce que là-bas, selon les statistiques qui nous ont été rapportées, il y a autour de 600 ménages qui manquent d'abris décents, c'est-à-dire qu'ils ont des endroits pour vivre, mais c'est pas décent, c'est vraiment à peine des bâches, quelques bâches et quelques vêtements qu'ils ont juste entourés, et c'est là où ils habitent. Et donc nous avons fait alors un partenariat avec la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge, et maintenant nous sommes en train de la Croix-Rouge Luxembourg qui voudrait aussi rejoindre ces efforts. Nous avions donc ensemble en vue de construire plus de 200 abris. Pour le moment, nous avions lancé les travaux de 50. Et ce qui est prêt, c'est ça que nous avons remis aux familles. Et nous avons aussi remis des matelas aux 250 pour arriver à toucher au moins une centaine de familles. Donc on a remis 250 matelas, 250 couvertures, des moustiquaires, parce que vous savez ce que c'est que de vivre dans des endroits comme ça sans moustiquaires, vous en exposez aux maladies. Et donc ça, c'était la phase pilote du projet. Nous allons donc aussi annoncer la deuxième phase pour pouvoir mettre à l'abri plusieurs autres ménages.
Et au Nord Kivu, les déplacés internes et les réfugiés sont exposés à quel type de défis dans des camps de déplacés là?
Alors, on a aussi circulé dans les camps des déplacés ici au Nord Kivu, parce que j'y suis d'ailleurs, je suis au Nord Kivu. Nous avons, il faut déjà différencier des sortes de déplacés, des types de déplacés. Il y a des types de déplacés comme les déplacés du volcan, par exemple, qu'on a aussi rencontrés. Les déplacés du volcan Niragongo, eux, ils sont dans un camp. Il faudrait savoir qu'on ne peut pas construire des abris en matériaux, que ce soit durable ou semi-durable, parce que ils ont chez eux et ils doivent rentrer chez eux. C'était juste une histoire où le volcan est arrivé et voilà, le volcan est passé. Maintenant, il faudra reconstruire chez eux. Eux, leur demande était qu'on arrive à leur donner des tôles parce que des tôles sont déplaçables. On leur a remis des tôles. Ils ont habité dans ces tôles. Ils ont habité dans des maisons construites en tôles. Voilà. Nous avions construit d'ailleurs. Et maintenant, on est allé les revoir. Nous avons trouvé que plusieurs familles sont juste rentrées chez elles. Elles ont pris des tôles et sont allées reconstruire chez elles. Et on a pu trouver que 4 familles qui étaient là. On a partagé un repas ensemble. On a essayé de fêter un peu pour leur redonner un peu la joie. Mais c'était voilà. Donc c'est à peu près ça. C'est le premier type. Mais le deuxième type, c'est en fait des déplacés qui vivent là où il y a un plus grand nombre. Si vous allez au camp Mugunga, vous allez au camp Bulango, là où nous étions partis sur le site, ces sites-là, il y a des milliers de ménages. Milliers, c'est, quand je dis milliers, mais il faut dire des dizaines de milliers de ménages. Ils sont beaucoup trop nombreux. Vous ne savez pas leur donner des abris qui sont très, très décents. Pourquoi? Parce que ils sont en grand nombre. Et si vous n'arrivez pas à combler le besoin de tout le monde, vous exposez ceux à qui vous donnez des abris. Donc, chez eux, on a des kits humanitaires que tout le monde ici donne à tout le monde. Ça s'appelle les kits NFI. C'est composé des bâches. Bâches pour papa, maman et puis bâches pour les enfants. C'est composé des ustensiles de cuisine, de couvertures et tout ça. C'est ça que nous avons remis à 1000 ménages.
Oui, sur terrain aussi, on sait que les besoins sont vraiment nombreux. Est-ce que les abonnés de Vodacom manifestent vraiment l'élan de solidarité pour assister ces victimes, au fait?
Alors, on a quand même pu avoir quelques abonnés qui ont contribué à la campagne. Il y a quand on a lancé la campagne, on a vu la Robanque qui a été manifestée, la Robanque est venue assister, donc elle a donné un peu de cash. On a vu Rossu aussi qui s'est manifesté et qui nous a donné cash. Et on a aussi vu nos opérations sœurs. Il y a une opération qui est au Mozambique, Vodacom Mozambique, qui a voulu aussi participer. Ils nous ont envoyé 10 000. Et donc, on a aussi, quelquefois les employés de Vodacom qui acceptent aussi de donner quelque chose pour arriver à soutenir nos frères et nos sœurs à l'Est. Mais je pense que oui, c'est une dynamique qui doit continuer, ça ne doit pas s'arrêter.
Et que faut-il faire si nous voulons apporter notre assistance ou notre contribution à cette opération? Où est-ce qu'on peut aller remettre ce qu'on a?
Alors, on a nos abonnés qui sont sur M-Pesa. Ils peuvent envoyer leur contribution dans la partie dons. Sur M-Pesa, il y a un bouton qui s'intitule dons. Donc, vous envoyez ça au 080 30, vous envoyez votre don et sachez que ça arrivera à destination. Parce que nous avons un super grand projet, c'est pas fini, nous sommes encore au tout début de notre assistance à nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin.
Est-ce que vous pouvez nous faire une idée
si vous êtes à l'étranger, si vous êtes à l'étranger, je pense que vous pouvez aussi nous écrire. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email, ça nous permettra de vous donner les numéros de compte pour que vous arriviez à verser des fonds. Donc, vous nous écrire à foundation en anglais, foundation@vodacom.cd.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les montants collectés pour cette intervention? Vous êtes à Goma, je le rappelle.
Oui, je suis à Goma. Bon, les montants collectés, je pourrais pas vous donner le montant global parce que déjà il y a des gens qui ont des dons en argent, c'est vrai, mais il y a aussi des dons en nature et il y a aussi des dons qui ne sont pas nécessaires. Il y a des projets qu'on a regroupés, par exemple ici dans le camp des déplacés, il y a la rentrée scolaire. Il y a le FHI, par exemple, qui est venu nous voir pour nous dire, OK, eux, ils veulent contribuer en donnant des enseignants qui vont enseigner les élèves de déplacer, les enfants de déplacer. Et nous, la fondation, on est venu construire. On a construit, on est en train de construire, on a lancé les travaux de construction des classes. et c'est le FHI, en collaboration avec d'autres partenaires, des enseignants même qui sont des déplacés, qui organisent des classes. Donc, je ne sais pas donner un montant comme ça, mais c'est pour dire qu'on a besoin de tout le monde. Le don ne peut pas toujours être en, même s'il n'est pas toujours en argent, ça peut être en nature, ça peut être, et même ça peut vraiment aussi être en expertise, comme la Croix-Rouge. Nous finançons, c'est vrai, mais la Croix-Rouge, c'est ce qu'elle fait, c'est au-delà même du financement. Volontaires, il y a des volontaires de la Croix-Rouge qui nous aident, mais de manière impressionnante, que je salue d'ailleurs.
Madame Roliane, est-ce que ces projets qui sont réalisés, vous les orientez en fonction de la demande des sinistrés ou c'est la fondation qui pense initier ces projets-là?
Alors, mais déjà qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas aider les gens sans qu'ils en aient besoin. Donc, on identifie le besoin qu'il y a dans les camps. Vous savez, par exemple, vous avez une place, il y a à manger, mais il y a aussi le besoin que les enfants aient à l'école, parce qu'ils sont pas dans leur milieu naturel, et à donner à eux-mêmes, ils ont le temps et ils commencent à se verser dans la délinquance, dans la barbarie. Donc, il faut absolument avoir des salles de classe. On a discuté avec eux et c'est vraiment le besoin identifiable. Et donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Mais aussi, le besoin d'être autonome. On a pensé à autonomiser les parents, mais on se dit, on ne sait pas faire selon que nous, on veut. On identifie les aptitudes des uns et des autres. Et c'est pourquoi on a dit, OK, on va faire un atelier de couture. Ça, par exemple, ça pour ceux qui savent coudre. Et aussi, il faut absolument avoir quelqu'un qui arrive aussi à coudre et puis aider les déplacés à s'habiller, parce qu'il faut, vous savez déjà, c'est aussi un autre grand besoin. Et donc, pour les autres, par exemple, qui n'ont pas nécessairement ces aptitudes, nous voyons dans quelle mesure leur donner des commerces s'ils veulent et s'ils en ont la capacité, leur donner de commerce, d'avoir de vente de crédit, leur donner de commerce, de vendre un PSA, ou sinon, comment organiser un marché. Donc, on est en train d'étudier tout ça pour voir dans quelle mesure arriver à l'aider.
Et dans les volets formation en coupe et couture, elles sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien les bénéficiaires de cette formation-là?
Alors, nous avons acheté, nous avons pu obtenir 200 machines. C'est ça que nous avons. Mais dans un premier temps, l'atelier qu'on est en train de construire, tenir 100 machines, voire former les 100 premiers bénéficiaires. Dès que nous voyons que c'est bon, nous pourrons alors dans ce cas-là juger s'il faudrait leur remettre ces machines ou carrément laisser l'atelier pour qu'ils arrivent à travailler dedans. Nous allons voir. Ça va vraiment dépendre de comment est-ce que ils s'en sortent en faisant ce métier.
Et pour les tout petits, on suppose que dans des camps de déplacés et réfugiés, là, il y a des enfants, de jeunes adultes. Quels sont les projets qui sont également réalisés en leur faveur?
Alors là, il y a des enfants, il y en a, et il y en a beaucoup. Et nous, avec le I360, pour arriver à leur construire des classes, pour bien sûr éviter la rupture scolaire et éviter qu'ils retombent dans la délinquance. Donc, on a lancé les travaux. On espère qu'en septembre, les classes vont être déjà opérationnelles. Ils pourront aller à l'école. Nous avons aussi pensé aux fournitures de classes. Ça va déjà arriver à Goma. Donc, je suis là. Je crois qu'au courant de cette semaine, il y aura déjà des fournitures qui vont arriver. En fait, le but, c'est de les encourager parce qu'il n'y a pas que les classes que vous allez faire. S'ils veulent pas partir ou s'ils trouvent pas l'intérêt, ils ne pourront pas y aller. Mais je pense qu'avec des cadeaux comme des sacs, des cahiers et tout ça, ça va leur donner vraiment cette envie-là de poursuivre les études. Et ça, c'est ça qu'on fait pour les enfants qui sont en âge de scolarité.
Nous vous gardons en ligne, Madame Roliane. On va aller au standard, donner la parole à un auditeur qui appelle. Il va se présenter. Comment se prépare l'opération d'assistance aux déplacés des guerres du Nord Kivu et aux sinistrés de Calais au Sud Kivu? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Julie me signale qu'il y a un auditeur au standard, il va se présenter et puis on vous lui donnera la parole. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Radio Okapi, je suis à Lubumbashi précisément, dans le quartier Kenya. Mmh. Moi je m'appelle Florent.
Monsieur,
je voulais savoir oui. Par rapport à la contribution de cette émission.
Vous voulez savoir
comment pour contribuer?
Vous voulez savoir comment on fait pour apporter son aide, hein?
Oui, oui.
Parfait. L'invité aura le temps d'y répondre à votre question. Il y a un deuxième auditeur, il s'appelle, malheureusement, il est temps de le mettre en ligne. Madame Roliane, comment répondez-vous à l'auditeur de Lubumbashi? Il a voulu savoir, hein, qu'est-ce qu'on fait lorsque vous voulez apporter son assistance dans le cadre de cette opération?
Alors, s'il y a Lubumbashi et qu'il a son numéro M-Pesa, il a son compte M-Pesa, il peut donc composer étoile 11 22 10. Il va dans les options où il y a la partie don, qui clique dessus et donc il pourra faire sa contribution au numéro 0 80 30.
Ces codes, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent ou de l'aide dans le cadre de cette opération.
Exact. Oui.
Vous étiez en train d'établir sur de parler de l'assistance, en fait, les programmes scolaires pour les enfants qui sont dans des camps. Est-ce qu'il y a également des projets pour les uniformes, parce que comme la rentrée s'approche, les sacs ou les objets classiques? Vous avez également pensé à ça?
Oui, nous avons pensé à ça, mais nous voulions plutôt, au lieu d'aller le faire à l'extérieur, nous voulions bien sûr équiper d'abord leurs parents. Ils arrivent à travailler et comme ça, nous allons acheter chez eux. Donc, nous les poussons, nous soutenons leur business en leur demandant de fabriquer des uniformes pour les enfants. Donc, c'est vraiment un projet à 360 degrés et ça, c'est de l'aide qu'on veut apporter à tout le monde. Malheureusement, c'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps parce que selon le planning de la formation en coupe et couture, ça va prendre 6 mois. Mmh. On sera sur 6 mois, donc on pourra pas le faire pour septembre, mais seulement après que leurs parents arrivent vraiment à s'en sortir. Nous allons maintenant faire des commandes auprès d'eux et ils pourront confectionner des uniformes pour les enfants.
On retourne au standard hein, pour donner la parole à Yves Laurent qui intervient depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Yves, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, est-ce que vous me rappelez le sujet? Je viens de voir l'émission déjà en cours. On veut revenir le sujet.
On est en train d'établir sur l'assistance humanitaire hein, de la Fondation Vodacom en faveur des victimes, des déplacés internes et les sinistrés de Calais au Sud Kivu.
Ah, ok, merci beaucoup pour la thématique. Je pense que actuellement, on a décrété la trêve humanitaire qui a été demandée par les États-Unis d'Amérique
et qui a été
pour aider les affreux de la guerre de l'Est. Mm. Je pense que aider ceux qui souffrent, les affreux de la guerre de l'Est, c'est très important parce que la vie, d'abord, elle est sacrée. Je pense qu'il est de la responsabilité de notre gouvernement, de notre État, d'aider nos mamans, d'aider nos papas, parce que ils souffrent ces affres de guerre depuis un moment. Je pense qu'il est aussi la responsabilité du ministre attitré. Nous avons le ministère de la solidarité et affaires sociales comme ça. Je pense que cette question est vraiment très importante parce que ce qui se passe à l'Est, ça laisse pas indifférent. Je pense que notre temps doit faire des sommets pour imposer la paix à l'Est. On ne sous-traite pas la paix, on ne sous-traite pas la sécurité. La sécurité à la paix s'impose. C'est pourquoi il est de la responsabilité de tout gouvernement de faire de son mieux pour que la paix revienne à l'Est. Parce qu'on ne peut pas assister à des déplacements chaque jour. Les gens se déplacent, les gens ne mangent pas. Ah, bah, c'est à toi, moi, ceux qui sont à Kinshasa, ils voient ça normalement. nous les Congolais l'âme des scie vraiment, donc on est vraiment on s'inquiète de ça. Donc à cette oui, moment aussi le télé ça nous pousse vraiment à agir beaucoup plus.
Oui monsieur Yves Laurent, vous pouvez également vous apporter votre appui, hein, votre aide à ces sinistrés là.
Ouais, j'ai pas apporté mon appui à ces sinistrés là, mais le peu que je touche, parce que je touche combien, j'ai quel revenu. Je pense que la grande responsabilité revient à l'État. Moi, je suis un citoyen. Moi, je me débrouille de ma manière. Je peux toucher le mien. Mais ce que j'ai donnerai à ces gens-là sera vraiment inconsistant. Je pense que nous avons le ministère de la solidarité nationale. Il est de leur responsabilité de faire cela. Moi, l'individu, je peux leur donner, mais ça sera vraiment suffisant. L'État, c'est monopole-là. L'État, cette capacité-là d'aider ces gens-là. Parce que ces gens-là sont des Congolais. Ce ne sont pas des Ougandais, ce ne sont pas des Burundais. Nous avons des députés qui touchent beaucoup d'argent, qui touchent beaucoup d'émoluments là. Mais c'est là qu'ils souffrent là. Donc à un certain moment, nous devons être humanitaires. Hein. Nous devons être vraiment de personnes qui respectent la vie humaine. Donc, un député qui touche au-delà
merci beaucoup, M. Yves Laurent.
Et les gens qui souffrent là-bas, on voit ça normal.
Ouais, merci
je pense
beaucoup.
Qu'il est de la responsabilité de nos autorités vraiment de se dépasser sur ça.
Voilà, vous tablez sur la responsabilité des autorités du pays pour apporter leur assistance aux fêtes humanitaires aux sinistrés des Calais et du Nord Kivu puis des Litouri. Merci pour votre suggestion. Ismaël Mompoyi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati Mapoukou, bonjour à tout le monde.
Nous parlons de l'assistance hein, humanitaire aux sinistrés et aux déplacés au Nord Kivu, au Sud Kivu, puis en Ituri. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Merci beaucoup pour cette thématique. Je pense que notre République a un ministère chargé de s'occuper de ceux qui sont sinistrés, ceux qui sont déplacés, pour une ou telle ou une cause. Le ministre des Affaires sociales doit être là. Mais le problème qui se pose se trouve aussi au niveau du budget. Est-ce qu'on a un budget et la prévision pour voir que, parce que quand la catastrophe naturelle arrive, c'est imprévu. Est-ce qu'on a prévu quand même un budget conséquent pour résoudre les difficultés quand il y a tel ou tel problème? C'est ça la première des choses. Les déplacés sont nos frères congolais. Il faut les soutenir. Et la population en général. Tous ceux qui sont payés ou qui travaillent, parce que nous n'avons pas le partage équitable de ressources de la RDC. C'est ça la première des choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut être solidaire pour soutenir les autres. Ou c'est le gouvernement? En premier lieu, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait? Et dans les jours à venir, comme les déplacés continuent à s'affluer dans de tels ou tels endroits, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les jours à venir? Nous, la population congolaise, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi à notre niveau? La plupart des cas, ceux qui s'enrichissent, c'est donc qu'ils récoltent parfois, qu'ils font appel, il faut contribuer, mais peu après, nous ne voyons pas. Et surtout que la plupart de ceux dont on contribue, ça passe soit par la Caritas, soit par l'Église catholique. Bon, c'est là où il y a un grand souci, un grand problème. Est-ce qu'il y a les suivis pour tous ceux qu'on contribue pour ces gens-là? Il a fallu assez, soit on lutte contre l'insécurité, soit les personnes qui sont sinistrées, on se pose la question pourquoi et comment cela est arrivé. Vous allez construire à un niveau plus bas que la rivière, de même que la rivière. Dans les jours à venir, nous allons nous attendre à cela. L'urbanisme et habitat doit s'occuper de ce genre d'action. Il faut déplacer les gens qui sont dans des zones très, 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 très sensibles ou zones à risque. Il faut déplacer ces gens-là. S'il s'agit de l'insécurité, dire aux gens ou faire appel aux gens pour lutter conformément pourvu que les gens puissent rester dans leur milieu. C'est ça parmi les solutions. Et les contributions de différentes personnes et des donateurs, cela aiderait à ce que ces gens-là puissent se retrouver, puisqu'on contribue et qu'on vérifie si réellement les sinistrés ont touché ce dont nous avons fait pour lui, qu'il puisse aussi se réjouir ou se retrouver comme les autres. À mon niveau, c'est ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Ismaël. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Madame Roliane, est-ce que vous travaillez en collaboration avec les ministères des tutelles, hein, notamment les affaires sociales, dans le cadre de ces opérations?
Oui. Que le ministère des Affaires sociales, nous avons quelques interactions, mais seulement il y a eu des changements nous attendons vraiment que le bureau soit bien assis pour arriver à faire des engagements aussi avec la nouvelle ministre. Et nous espérons que ça va aller, vraiment on fera vraiment bien de projets ensemble, mais déjà je veux dire qu'on est plutôt en partenariat qui est bien plus assis avec le ministère des personnes vivant avec un handicap.
Et l'auditeur de Lubumbashi, Ismaël Mumpoyi, il a voulu savoir, est-ce qu'il y a un suivi sur l'affectation de ces dons? Est-ce qu'il y a un suivi sur terrain? Vous suivez, vous canalisez bien les fonds mobilisés dans le cadre de cette assistance?
Exactement, ça c'est d'ailleurs la première question que nous sommes posées quand on a vu comment est-ce que nous allons nous rassurer que ce sont les vraies victimes qui reçoivent nos dons. Ça n'a pas été facile, mais heureusement qu'on a eu des partenaires comme la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, à chaque fois que nous travaillons avec elle, elle nous fournit la liste des bénéficiaires et nous descendons nous-mêmes sur le terrain pour voir ces bénéficiaires, et c'est exactement des personnes qui sont dans le besoin que nous rencontrons. Et quand nous faisons des remises de ce genre, nous avons toute une équipe que nous avons déployée autour de 10 personnes qui sont sur le terrain en train de voir, de vérifier la qualité même de ce que nous avons fait, la qualité des dons que nous leur donnons, les abris qui ont été construits par la Croix-Rouge. Il fallait regarder si réellement c'est ce qu'il faut. Et puis, autre chose, que nous avons choisi de travailler avec un humanitaire, pas seulement un fournisseur, parce qu'un fournisseur, lui, il va juste exécuter, mais un humanitaire, il connaît déjà les habitudes humanitaire, il connaît déjà ce qu'il faut, dans quel coin, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, c'est pourquoi nous nous appuyons beaucoup sur notre partenaire, la Croix-Rouge. Et voilà. Et donc, nous ne donnons pas l'argent comme ça pour dire, OK, allez, vous faites ça pour nous. Nous-mêmes, nous achetons, quand il s'agit des lits, par exemple, des couvertures, nous achetons nous-mêmes et nous allons nous rassurer que c'est les bénéficiaires-là reçoivent donc ces dons. Et même quand il s'agissait des ustensiles de cuisine, des bâches, des couvertures, des nattes et même les pagnes que nous avons remis aux mamans, donc nous avons aussi acheté nous-mêmes auprès d'un fournisseur et puis nous avons donc composé avec la Croix-Rouge pour arriver à faire ces dons. Donc pour dire que nous nous rassurons que un projet, quand même, je vous ai même parlé pour les classes, je vous ai même parlé d'une phase pilote avec juste quelques classes d'abord, même les abris, on a fait une phase pilote pour nous rassurer, pour essayer de travailler d'abord la confiance avec nos partenaires. Est-ce que dans ce projet pilote tout s'est bien passé? Nous allons faire des évaluations, nous faisons des évaluations, et quand c'est bon, c'est alors que nous pouvons envisager faire des abris de plus. Donc voilà, nous mettons tous les contrôles possibles pour nous rassurer que tout est bien fait.
Madame Roliane, est-ce que vous pensez également initier des programmes, des projets de maraîchage agricole en faveur de ces ménages là qui se sont déplacés?
Oh oui, pour Calais par exemple, là oui, nous avons ce projet là, mais encore une fois de plus, ce qui nous prend un peu plus de temps, c'est de trouver un partenaire que vous avez vraiment suffisamment regardé, vous avez fait la due diligence, vous avez regardé est-ce que ça va, est-ce qu'il peut bien faire les choses, est-ce que quand on verse l'argent, est-ce qu'il va pas, comment il va même traiter les victimes, les bénéficiaires, parce que ça aussi c'est une autre chose. Il suffit pas seulement de faire l'action, mais aussi comment est-ce que vous interagissez avec les bénéficiaires, comment vous les traitez, est-ce que c'est avec dignité, avec respect. Donc tout ça, c'est ça qui nous prend d'ailleurs le gros de notre travail avant de passer à l'exécution. Mais oui, à Calais, nous avons un projet pour aider les familles, d'autonomiser les familles dans l'agriculture. Nous avons, au moment du lancement d'ailleurs de la remise officielle de ces abris, nous étions avec le vice-gouverneur du Sud-Kivu qui a promis d'ailleurs aux bénéficiaires de leur donner des titres parcellaires des abris là où nous avons construit. Donc nous attendons, dès qu'ils sont en possession de ces terres, ça va être plus facile de faire l'agriculture. Oui.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur d'autres besoins qui sont vraiment urgents dans ces camps des réfugiés en dehors des actions que vous réalisez?
Alors, les besoins sont, même les actions que nous avons fait que sur quelques ménages et les autres ménages. Je vous assure, le besoin est très grand. Je me rappelle quand nous sommes allés lancer des classes, les travaux de construction des classes d'urgence à Boulengo. Quand nous sommes partis, nous avions prévu une cérémonie et puis un cocktail. Mais quand nous sommes arrivés pour voir le camp avant l'événement, je me suis dit, non, le cocktail, c'est pas indiqué ici. Je vais faire un cocktail, mais qui va venir manger, qui va pas manger? Mais j'ai vu les enfants qui étaient, vous voyez, le climat est assez froid ces jours-ci. Oui. Mais les enfants n'ont pas de vêtements. Ils ont tous la grippe, ils ont tous, c'est assez compliqué. Je me suis dit, l'argent du côté, on a acheté des vêtements pour leur donner. Ça, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de tout. Ils manquent de tout. Il n'y a pas de matelas. Tout ce à quoi vous pensez, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger. Ils attendent que certains finissent de parler pour leur apporter à manger. Et donc, ils ont besoin de tout. Ils ont besoin, non seulement ce sont des besoins primaires, mais aussi ils ont besoin de penser à l'avenir et de dire je peux aussi contribuer comme ceci ou comme cela pour mon avenir, pour mon propre avenir. Ils ont besoin de tout ça.
Oui.
Donc, je pense que même le dernier des Congolais, il faudrait pas dire moi mon pouvoir d'achat est très faible, mais je crois que même avec 1000 ou 2000, 3000, 4000 francs que tu peux avoir,
ça peut rendre
service, penses à ton frère, à ta sœur qui est, ça peut faire quelque chose, oui.
Et dans le domaine de la santé, les femmes enceintes, elles vivent comment dans cette région, dans ces camps?
Ça, c'est encore une énorme difficulté. D'ailleurs, quand on a donné des kits que j'ai dit, qu'on appelle NFI, on a plus voulu d'abord donner aux femmes enceintes parce que il y en a tout plein dans les camps. Vous savez, quand vous avez quitté chez vous et que vous êtes chez autrui, vous n'avez plus rien à faire de la vie et c'est tout de suite, ce sont des grossesses en fait. En grand nombre.
La liaison s'est dégradée avec Roliane qui intervient depuis la ville de Goma. Oui,
on était. Je suis là.
Voilà. Vous êtes en train de tabler sur la santé. Allez-y, on vous écoute. Les problèmes de santé.
Ok. Le problème de santé. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà d'un côté. Les femmes tombent en termes dans les camps déplacés. Et donc, ça rend encore les choses plus compliquées. Et quand on a donné des kits qu'on a remis pour les familles, on a pensé aux mamans, on a pensé à des pagnes, on a pensé à des soins de soins hygiéniques, bien sûr. Il faut penser à désinfecter le lieu parce que les femmes enceintes, ça attrape un peu plus d'infections que les femmes qui ne sont pas enceintes. Donc, il faut penser à tout ça. Et je suis vraiment... Tous les autres partenaires, ce ne sont pas nécessairement les partenaires de la fondation, mais j'ai vu qu'il y a aussi d'autres humanitaires qui sont sur place et qui aident les familles. Et il y en a qui apportent des bandes hygiéniques pour les jeunes filles, il y en a qui viennent. Donc, en tout cas, c'est encore plus compliqué, comme je le disais, le domaine sanitaire. Aussi, il y a le fait que vous dormez à même le sol. Il y a toutes les maladies possibles. J'ai eu la chance de visiter l'entrepôt de la Croix-Rouge ici, j'ai vu des médicaments que d'autres personnes, d'autres sociétés apportaient. J'ai trouvé que c'était vraiment très humain. C'est bien d'apporter des médicaments et c'est bien aussi d'apporter des nourritures pour des enfants malnutris. Ça aussi, c'est un autre.
Madame Roliane, on vous garde en ligne. Hein. Le temps de donner la parole à un auditeur qui nous appelle. Il va se présenter. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Parlez à vos soutenus, s'il vous plaît. On vous écoute à peine. Et il y a un sifflement dans la communication, là. Allez-y, on vous écoute.
Bonjour.
La liaison téléphonique est manche avec l'auditeur qui a appelé de Kananga. Donc, Madame Roliane, vous êtes en ligne?
Oui, je suis là.
Voilà. Et concernant surtout les enfants, les enfants, l'accès aux soins pose aussi problème chez les tout-petits dans ces camps des réfugiés.
Exactement. l'accès aux soins pose énormément de problèmes. Il y a beaucoup d'enfants malnutris qui ont besoin d'aide et qui ont besoin, en plus de la nourriture normale que tout le monde peut manger, ils ont besoin de compléments alimentaires, ils ont besoin de tout ça. Donc, je pense que les partenaires, qu'ils rejoignent les efforts de la fondation ou pas, on a tous besoin d'aller là-bas au camp pour aider ces familles. Et donc voilà, les besoins sont énormes et voilà.
Et en termes de sécurité, est-ce que ces sinistrés sont également vulnérables concernant la sécurité dans les camps des réfugiés là?
Mais bien sûr. Déjà qu'il y a il y a un règlement. Si vous ne pouvez pas rester dans un camp de déplacés à une certaine heure, il faut absolument partir de là. Il faut suivre les consignes. Nous-mêmes, quand nous y sommes partis, il fallait partir à une certaine heure. Il fallait pas, parce qu'en fait, quand quelqu'un, un humain, un individu, déjà vit dans des conditions très difficiles, il développe aussi certains. C'est d'ailleurs en les autonomisant, certaines habitudes, tu peux prendre enfin, c'est vrai que là, je préférais que nos partenaires de la Croix-Rouge ou de FH et AFH, ils travaillent, qu'ils puissent relever ces points du côté sécuritaire. Ça, ça ne relève pas nécessairement de la Fondation Vodacom, mais seulement il y a un règlement. Il être dans les camps à une certaine heure, vous pouvez pas y aller n'importe comment. Vous devriez absolument vous faire accompagner. Vous ne pouvez pas et faire le don, parce que si vous faites un don, comment vous avez sélectionné la personne à qui vous donnez? Et si vous donnez à cette personne, les autres, comment est-ce qu'ils vont réagir? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant. Donc, il faudrait plutôt se greffer sur des humanitaires si vous voulez que votre action soit bien faite, parce que eux, ils connaissent les habitudes des camps et ils savent comment, par exemple, essayer de mettre certains d'un côté pour leur remettre des dons pour que cela ne soit pas un problème pour les autres.
Est-ce que Roliane, est-ce qu'en dehors de ces projets d'autonomisation des femmes par les biais de la formation en coupe et couture, il y a d'autres filières de formation que vous pensez initier en faveur de ces sinistrés?
Alors, nous, on a pensé aussi, comme je vous ai dit, à la vente de crédit, si c'est possible, à la vente de crédit, à la vente de M-Pesa. Nous avons aussi pensé à la menuiserie, mais ça encore, il faudrait qu'on voie ici, on voie d'abord que le projet de la coupe couture marche et que c'est vraiment bénéfique, parce qu'après, ce traumatisme que ces gens-là subissent font en sorte qu'ils aient aussi quelquefois besoin d'accompagnement psychologique.
Oui.
Maintenant, si vous allez avec beaucoup d'actions d'un coup, vous voyez que des personnes ont des problèmes psychologiques qui sont vraiment criants et qui ne leur permettent pas de suivre vos formations, ça c'est encore un autre problème que vous créez. Et donc, nous faisons d'abord la coupe et couture, ensuite on va passer à la menuiserie, mais nous pensions aussi avoir organisé un marché, ça veut dire vraiment faire un marché dans ce camp-là, où les gens vont vendre et les autres achètent. Ça, c'est aussi une autre manière d'autonomiser ceux qui n'ont pas nécessairement des aptitudes particulières, mais qui peuvent vouloir à vendre et à arriver à être autonome.
On vous garde en ligne, on me signale en même temps aussi qu'il y a un auditeur au standard, donc on va lui donner la parole. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où et quel est votre nom?
Je vous appelle à partir de la ville de Tikapa, je réponds au nom de Bouanga Neftali.
Oui, monsieur, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce que nous sommes en train de débattre? Malheureusement, la liaison s'est coupée avec l'auditeur qui a appelé de Tikapa. Madame Roliane, est-ce qu'on peut avoir une idée dans les volets petits commerces? Vous avez ciblé combien de bénéficiaires de ces petits commerces de vente de cartes et crédits? Est-ce que vous m'entendez, Madame Roliane? La liaison s'est dégradée avec Roliane, qui intervient depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Elle est responsable de la fondation Vodacom, qui a initié l'opération de collecte des dons en faveur des déplacés du Nord Kivu et pour les sinistrés de Calais, où des maisons ont été construites en faveur de ces sinistrés, victimes des inondations de l'an dernier. Madame Roliane, est-ce que vous êtes en ligne et vous nous écoutez?
Oui, oui, oui.
Voilà, je disais, dans les volets...
je vous entends très bien.
Dans les volets petit commerce, vous avez ciblé combien de bénéficiaires qui vont commencer à vendre des cartes de crédit?
Alors, dans un premier temps, nous avons ciblé 1000 familles, 1000 familles que nous voudrions autonomiser. Ça, c'est ça que nous avons ciblé. Maintenant, dans les 1000 familles, nous allons prendre dans un premier temps 100 familles, 100 familles, c'est-à-dire une personne par famille, qui vont, ces familles-là vont, enfin, ces personnes-là vont alors entrer dans l'atelier pour apprendre et devenir autonome, apprendre à coudre et tout ça. Et ensuite, on va encore prendre 100 autres familles. Nous allons vraiment aller mollo pour nous rassurer que c'est bien fait. 100 autres familles, nous allons les mettre, nous allons les placer dans la vente de crédit. Et il va avoir aussi 100 autres familles. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous prendrons 100 familles et nous allons à chaque fois évaluer pour voir si le travail est bien fait.
Est-ce que vous avez également prévu la formation en amont pour ces gens qui vont se lancer dans les petits commerces? Formation d'entrepreneuriat, par exemple?
Oh oui. Donc on ne peut pas donner des fonds sans pour autant être rassuré qu'ils ont reçu une certaine formation. D'ailleurs, la formation est beaucoup plus importante quelquefois que les fonds que nous donnons. Si vous donnez des fonds, ils vont utiliser et puis ça va passer. Donc on se rassure toujours que tout ce qu'on fait est en une période de formation. Allez, ça va dépendre de ce qu'ils font. Si c'est un PSA, ça ne prend pas plus d'une semaine. Ça prend pas plus d'une semaine et vous aurez juste besoin de certains recyclages pour arriver à entretenir votre business. Si c'est la vente de crédit, ça prend pas non plus d'une semaine et donc c'est pareil, vous aurez besoin de recyclage pour maintenir votre business. Si c'est la coupe et couture, ça prend 6 mois et donc vous aurez aussi besoin et puis vous commencez à travailler et puis pour les autres. Donc au fur et à mesure, chaque métier a sa période de formation et nous tablons beaucoup plus sur la formation avant même de donner des fonds pour commencer le business.
Madame Roliane, on est à la fin de notre entretien. Est-ce que vous pouvez lancer un petit message en lingala sur les projets de collecte des dons en faveur des sinistrés de Goma, du Nord Kivu, pardon, et des Kalehe?
Ok, en lingala. Oui, je parle lingala, juste que en fait, le projet, je l'ai préparé en français. D'accord, je vais essayer de parler. Alors, moi, ça vraiment bande konangai, nous surtout au bazolandangai, bana Congo, bisonyon surtout tous aba congolais, bisonyon surtout tous en a besoin, tous à la malamu. Pona wana, il faut tous sangana bisonyon surtout pour total la situation, ya bande konabiso au bazali na est. Na bakon aba déplacer. Baza ebele bokokiko bon imaginete. Donc tokene kokutana ba misusu tokutaki ba misusu bazalaki bazaka okuta muntu azana on personne vivant avec handicap mazana quand il a déplacé
situation yangona fondation Vodacom est lancé opération et a collecte des dons en faveur de ces sinistrés yebisa biso siko ba osala ngona ndenge ba osala don na ndenge nini assistance. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone dédié à ça?
Ok, soki bolingi bosala don na fondation Vodacom, bo composé bokena bo composé étoile 11 22 10 OESA, donc code pour nos conseils la MPSA et puis bolunke sika ba koma don bo fini na kati bo pona siko koti na mbo na bino bo koti na ngona 0 80 30 0 80 30, donc bo tindi mbo na bino facilement et la fondation Vodacom et Kozoyango.
Roliane Yulu, nous rappelons que vous êtes responsable de la fondation Vodacom. Merci d'avoir été avec nous dans cette seconde partie d'Okapi Service. À la prochaine. C'est par ici que nous clôturons ce magazine que vous a présenté Tati Mapoku. Julie Fezabongonda était à la réalisation et Pierre Diassilois s'est occupé de la prise des sons. Excellente condition d'écoute de nos programmes.